L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui sera consacrée à la recomposition ou à la décomposition puis à la recomposition de la gauche et pour laquelle nous recevons Gérard Grimbert. Gérard Grimbert, bonjour.
Bonjour.
Nous, c'est-à-dire Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung et Lionel Zinsou, économiste franco-béninois. Gérard Grimbert, vous êtes historien, politologue, spécialiste de la gauche, vous êtes directeur de recherche émérite au Centre d'études européennes de Sciences Po et vous animez le site internet Telos, une plateforme de débat entre intellectuels d'inspiration réformiste. Avec vous, nous allons nous intéresser à la situation de la gauche et à ses perspectives de recomposition au lendemain des dernières élections présidentielles puis législatives. La renonciation de François Hollande à briguer un second mandat à l'Élysée marque selon vous la fin du Parti socialiste créé par François Mitterrand en 1971 au Congrès d'Épinay. Vous pensez cet événement comme l'aboutissement de l'opposition entre une gauche de gouvernement et une gauche d'opposition. Leur coexistence au sein d'un même parti, possible dans un contexte de lutte pour la conquête du pouvoir, n'a pas résisté à son exercice au cours du précédent quinquennat. Vous décrivez un président de la République à l'action paralysée, écartelé entre une tendance social-démocrate qui lui reproche de ne pas pousser les réformes assez loin et une tendance antilibérale en rupture avec le capitalisme. Pour la première fois depuis que les socialistes sont revenus au pouvoir en 1981, une fraction du parti, les Frondeurs, a entrepris de combattre son propre gouvernement à l'Assemblée nationale, allant à deux reprises jusqu'à tenter de faire adopter une motion de censure contre lui. L'échec du candidat socialiste à l'élection présidentielle, avec 6,3% des suffrages, et la déroute de son parti aux législatives, passé de 264 à 29 députés, consacrent la perte de sa position dominante dans le spectre des forces de gauche. Benoît Hamon s'est retrouvé, selon vous, dans une impasse stratégique face à Jean-Luc Mélenchon et dans l'incapacité de défendre son projet de refondation d'une gauche radicale. Le leader de la France insoumise, engagé dans une démarche sectaire selon votre analyse et une stratégie de la terre brûlée, n'a pas fait mystère de son ambition de détruire le Parti socialiste et il n'avait aucun intérêt à soutenir l'aile gauche de Solferino. Le nombre réduit de députés issus de la France insoumise empêche toutefois cette formation de s'affirmer comme une force à même de recomposer la gauche autour de son projet. La victoire d'Emmanuel Macron, soutenue par l'aile réformiste du Parti socialiste, aboutit selon vous à une disparition des forces traditionnelles qui structuraient la vie politique française et à l'explicitation du clivage entre progressistes et conservateurs, division qui n'épargne pas l'autre parti traditionnel, les Républicains. Vous interprétez la formation d'un gouvernement composé de figures de gauche, du centre et de la droite comme un projet de concentration républicain qui pourrait provoquer des changements aussi fondamentaux que ceux qui se sont produits en 1958. L'entrée de Nicolas Hulot au gouvernement a de plus, je vous cite, enfoncé le dernier clou du cercueil du Parti écologiste. Vous déclinez le clivage progressiste contre conservateur, européiste contre nationaliste, humaniste contre xénophobe, libéraux contre étatiste, modéré contre extrémiste et tolérant contre rigoriste. Vous questionnez la survie même du modèle de parti traditionnel avec l'affirmation de la République en marche et de la France insoumise, structure articulée autour de leur personnalité fondatrice. Ce contexte ne permet pas en l'état un mouvement de recomposition des forces traditionnelles de gauche, d'autant plus que le processus de décomposition n'est, de votre point de vue, pas encore arrivé à son terme. Gérard Grimbert, selon la tradition, je vais vous proposer un bouquet de questions dont vous choisirez celle qui vous convient ou que vous détournerez et que vous remplacerez par une question qui vous conviendra davantage. Quel est le plus petit dénominateur commun qui lie encore les multiples formations qui se réclame de la gauche? Le Parti socialiste a-t-il laissé passer une occasion de clarifier sa ligne politique et d'éviter son éclatement? L'affaiblissement des partis traditionnels est-il sain pour notre vie politique? Assiste-t-on à la même remise en question du clivage droite-gauche dans d'autres démocraties comparables à la nôtre? Et enfin, que voulez-vous dire quand vous comparez la décomposition et la recomposition actuelle avec la situation de 1958? Gérard Grimbert, votre choix.
Merci beaucoup pour toutes ces questions sont évidemment intéressantes, hein, donc je peux pas répondre à toutes, mais quand même peut-être à plusieurs, peut-être pas une seule. Bon, disons que aujourd'hui, je vais d'abord parler de la France, mais je pense que tout tourne autour quand même du déclin de la social-démocratie. Je crois que c'est ça le point fort, et c'est pas seulement un point français, évidemment, c'est un point européen. Au fond, pourquoi, et c'est mon impression, pourquoi la social-démocratie, cette synthèse qu'était la social-démocratie depuis la guerre, d'un parti finalement anticapitaliste qui était devenu un parti de gouvernement et qui au fond était très intéressé à rester un parti de gouvernement dans une économie libérale. Cette synthèse-là, pour des raisons qu'on va essayer peut-être de discuter, cette synthèse-là me paraît touchée à mort. Et donc, au-delà de la question du Parti socialiste ou de la gauche française, c'est bien la question de la gauche européenne et de la social-démocratie qui est à mon avis posée. Alors, pour ce qui concerne la France, oui, la France, disons que, donc, puisque même si c'est pas historiquement exactement ça, la variante française, j'ai envie de dire, de la social-démocratie, c'est le Parti socialiste. Je ne m'étends pas sur les différences par rapport au modèle social-démocrate très traditionnel, issu de l'Allemagne, de l'Autriche, etc. Mais enfin, dans un pays où, avec Mitterrand, avec la fameuse et importante date de 1981 et de l'alternance, on avait réussi à créer en France un système d'alternance gauche-droite où, en fait, la gauche, elle était structurée par le Parti Socialiste. Voilà, ça, c'était ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé, quand même, depuis 81 jusqu'à aujourd'hui. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le PS et la gauche s'est effondré? D'abord, le PS, je crois... Bon, d'abord, là, vous avez rappelé les résultats, c'est ça simple, hein. Aujourd'hui, les socialistes étaient 280, ils sont 29, hein, et au fond, ils sont divisés maintenant. On est en train d'assister à la composition des groupes parlementaires. On est donc à pratiquement 4 groupes parlementaires, mais peut-être 6. Parce qu'au sein de ce qui reste du groupe socialiste, il y a une fraction qui est plutôt pour être clairement dans l'opposition. On va le savoir demain, d'ailleurs, à leur Conseil national. Et puis ceux qui sont pour rester ouverts à l'égard de Macron.
Justement, il faut que je précise que nous enregistrons cette émission à la toute fin du mois de juin, ce qui explique qu'un certain nombre de situations auxquelles vous faites référence ne sont encore que des hypothèses, mais si elles sont avérées, notre éclairage n'en sera pas moins juste.
Bon, merci. Donc, le saucissonnage du Parti Socialiste lui-même, avant toute chose, ce qui me fait penser que on en est encore à la phase de décomposition, vous en parliez, la phase de recomposition, je ne la vois pas encore... D'abord, parce que ce qui me frappe, c'est que le Parti Socialiste, c'était une organisation. Vous avez posé tout à l'heure la question de l'utilité, de la forme des partis. Le Parti Socialiste, c'était une grande organisation. Or, ce qui me frappe, quand on écoute aussi bien les socialistes qui sont proches de Macron ou ceux qui sont proches, qui seraient plutôt pour aller vers une gauche radicale, vers Mélenchon, si celui-ci encore l'acceptait, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, personne ne se réclame du Parti Socialiste comme le Parti Socialiste. C'est-à-dire que chacun, enfin en tout cas beaucoup d'entre eux, de ce qui reste, pensent que c'est une autre formule qui doit être... Alors ils regardent du côté de Macron, ils regardent du côté de Mélenchon, deux formules nouvelles, puisque ce ne sont pas des partis précisément traditionnels, ce sont des partis dirigés par un homme, ce sont des partis très particuliers. Et donc on a déjà cette absence d'organisation aujourd'hui, sans compter, j'insiste pas, les problèmes financiers qui vont évidemment être très très importants. Mais en dehors de l'organisation, moi, ce qui me frappe surtout dans l'effondrement de ce parti, c'est que il n'a pas pu, au fond, venir à bout des contradictions qui portent en lui-même depuis le début. Parce que qu'est-ce qui était le génie politique de Mitterrand ? C'était précisément de dire en même temps au congrès d'Épinay en 71, celui qui n'est pas pour la rupture avec le capitaliste n'est pas socialiste, et en même temps mon but c'est de faire du parti un parti majoritaire et de gouvernement. Et il a réussi à le faire pendant un certain nombre d'années. Franchement, c'était pas évident. Il fallait tout son génie pour y arriver. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où précisément est à la fois un parti anticapitaliste dans l'évolution du monde économique tel que nous le connaissons, et en même temps un parti qui gouverne, et donc capable de garder un électorat majoritaire. Ça, c'est fini.
Michaela Wiegel.
Oui, vous venez de mentionner que cet effondrement de cette crise structurelle de la social-démocratie, elle n'est pas limitée à la France, même si la situation du Parti socialiste est quand même plus dramatique qu'ailleurs. Mais effectivement, on le voit en Allemagne où le SPD participe au gouvernement. Il est très abîmé. Son candidat a le plus grand mal à se mettre en position pour les législatives fin septembre. Et je voulais vous demander, dans votre analyse des raisons de cette crise, est-ce que la construction européenne joue un rôle aussi? Parce qu'on en parle moins dans le cas allemand, mais même la SPD a gardé en son sein un très grand, une critique qui est souvent mélangée avec la critique aux pratiques capitalistes, mais quand même une approche assez critique de l'Union européenne telle qu'elle s'est développée les dernières années. Et je rappelle aussi que le chancelier Schröder, quand il est arrivé au pouvoir, donc le dernier chancelier social-démocrate en Allemagne, avait un discours très, très anti-européen à l'époque. Aujourd'hui, il essaye de l'effacer quand il regarde en arrière. Et donc, est-ce que dans ce qui s'est passé au PS, l'Europe a joué un rôle?
Gérard Grammaire.
Oui, moi je crois tout à fait. L'Europe a joué un rôle. Et on a bien vu justement que le Parti Socialiste, depuis de longues années, n'a pas en réalité de politique européenne. Il n'en a pas. Et on a vu même, je ne parle pas de la gauche du Parti Socialiste, on a eu même le président Hollande lui-même, on a vu des mots très durs contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne était représentante d'une Europe qu'on ne voulait pas, l'Europe de ce qu'on appelle en France l'austérité budgétaire, etc. Donc je pense effectivement que l'incapacité qu'a eu le Parti Socialiste d'avoir une politique européenne a joué un rôle très très important dans sa crise, et surtout n'étant pas capable d'être porteur de quelque chose, d'une véritable stratégie, a laissé d'une part ceux qui étaient de plus en plus, et très nombreux au Parti Socialiste, hostiles à l'Europe allemande, entre guillemets, au fond rêver, effectivement, comme Podemos en Espagne, d'une gauche radicale qui serait clairement anti-européenne et qui pourrait même éventuellement aller vers la sortie de l'Europe, ce qui les a évidemment rapprochés de Mélenchon et de la gauche radicale anti-européenne. Rappelez-vous quand même que M. Mélenchon trouve scandaleux qu'il y ait un drapeau européen dans l'enceinte du Parlement français. C'est pas la peine d'insister, il suffit de le rappeler pour voir ce que ça veut dire. Donc on a effectivement cette... Et de l'autre côté, on a... Et moi, je continue à penser quand même que l'une des questions importantes, mais elle est liée à celle que vous posez, c'est celle du libéralisme économique, qui a toujours été au cœur des grandes divisions non assumées et non avouées, mais fondamentales du Parti Socialiste. Et c'est lié, c'est cette Europe, c'est l'Europe libérale. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Or, on voit bien que une partie de l'électorat socialiste, vous le rappeliez, hein, non négligeable, a voté pour Macron, parce que c'était la partie de la gauche réformiste qui était à la fois libérale et européenne. Et elle a été nombreuse. Donc par conséquent, effectivement, je pense que la question européenne a été importante. Mais puisque vous parliez de l'Allemagne, je peux dire que c'est pas le seul pays, la France, où la gauche a été déchirée par cette question européenne. C'est le cas, regardez, la situation du Parti Socialiste Espagnol aujourd'hui est absolument très très claire pour comprendre les contradictions du Parti Socialiste et son positionnement sur les questions européennes. Et puis alors je parle pas, ça éclatera peut-être un jour, là il y a le problème du mode de scrutin, évidemment, rend les choses plus particulières. Mais en Grande-Bretagne, il est bien évident qu'un jour ou l'autre, on va bien voir quelque chose se passer autour de la question européenne au sein du parti travailliste. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a cette question européenne est extrêmement importante. Et justement, dans le nouveau clivage, vous parliez des clivages gauche-droite et d'un autre clivage, j'en reviendrai peut-être tout à l'heure, je pense que par rapport au clivage gauche-droite, la concurrence d'un nouveau clivage est très liée, évidemment, à la question européenne.
Lionel Zinsou.
Oui. Est-ce que ce n'est qu'une logique politique qui explique la décomposition et peut-être demain une recomposition? Ou est-ce qu'il n'y a pas quand même des facteurs économiques, sociaux, d'inégalité des territoires qui se sont développés? D'ailleurs, il y a maintenant deux ministres pour la cohésion des territoires dans le nouveau gouvernement. Parce que au fond, il n'y a pas que la gauche qui est en train de se fragmenter. Il y a aussi les Républicains. Est-ce que c'est pas l'insuffisance de résultats par rapport à l'importance des promesses dans un contexte de crise financière, puis économique, puis sociale, puis morale, avec des inégalités territoriales terribles qui se sont accusées dans cette crise. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des logiques économiques sous-jacentes à cette décomposition, au-delà de logiques politiques, et qui valent pour les deux partis qui viennent pendant 10 ans d'assumer le gouvernement en ne parvenant pas aux résultats qu'ils avaient annoncés, résultats qui étaient attendus, en ne parvenant pas à des résultats auxquels on est parvenu dans d'autres pays, comme l'Allemagne, par exemple. C'est-à-dire, on peut voir par contraste, et quand même en Allemagne, il y a une moindre décomposition des forces politiques, mais il y a aussi des résultats, et des résultats qui correspondaient à des promesses, alors qu'il y a eu une insuffisance des résultats des deux côtés. Donc, quelle est la part de logique historique et politique, et puis quelle est la part de circonstances qui ont été beaucoup moins bien dominées en France que dans d'autres pays, et par les deux partis de gouvernement, et pas seulement par la gauche.
Gérard Grimbert.
Oui, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire, je pense effectivement, je continue à penser qu'il y a une question européenne de la social-démocratie. En même temps, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, les deux sont très très liés, bien sûr, les aspects économiques et sociaux et politiques. Je crois qu'en France, effectivement, on a vu l'électorat de la social-démocratie française, et pas seulement en France, se fondre pour des raisons qu'on voit à peu près clairement. Il y a d'une part, je dirais, la France qui se sent abandonnée, la France des anciens territoires industriels, on l'a vu, le Nord, l'Est, etc. Cette France-là, elle a abandonné la gauche, tout simplement. Elle a voté Front National. Et fortement Front National. Bon. Et puis, on a une autre partie qui n'est pas exactement la même quand on regarde les enquêtes sociologiques, celle qui a voté pour la France insoumise, pour Mélenchon, qui n'est pas tout à fait ça. Qui est des petites classes moyennes qui sont frustrées d'une réussite sociale extrêmement faible. C'est-à-dire, on l'a vu, des salariés moyens, par exemple, qui avaient, par exemple, fait un début d'études supérieures et puis qui ne trouvent pas le type d'emploi qu'ils souhaitaient. Bon, là, on a effectivement, et dans les deux cas, effectivement, même si c'est pas exactement les mêmes couches sociales, on a évidemment, par rapport à la mondialisation et par rapport à l'Europe qui est conçue, en fait, comme le fer de lance de la mondialisation, on a un retard. Ce qui fait que, peu à peu, comme en même temps, comme je le disais tout à l'heure, on a les couches moyennes supérieures qui sont plutôt contentes de la situation, qu'on appellerait, entre guillemets, les gagnants de la mondialisation, et qui, eux, sont pas mécontents de tout ça, qui ont abandonné l'idée du rêve socialiste, et qui pensent qu'il faut faire ce qu'on a appelé du social-libéralisme, qui est, moi, je crois d'ailleurs la bonne façon de résumer cela, les sociaux-libéraux, ceux-là, ben, ils ont abandonné le Parti Socialiste. Et donc, des deux côtés, c'est un peu sur le plan sociologique, ce que disait Mélenchon sur un plan, je dirais, politique et franchement polémique, qui était de dire, vous savez, on presse la noix des deux côtés, Mélenchon, Macron, et puis il reste plus que du jus, etc. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et de fait, c'est bien ce qui s'est passé. Pourquoi le Parti Socialiste est tombé ? Ça, c'est quand même stupéfiant, 6%. Bon, pourquoi il est tombé là ? Il est tombé là parce que, effectivement, il a été coincé entre un centre droit libéral et puis une gauche radicale. Mais c'est pas le seul pays. Parce que moi, ce qui me frappe, pour revenir en un mot simplement à la situation européenne, c'est qu'en l'espace de 10 ans, le Parti Socialiste a disparu en Grèce. Il est en train de disparaître aux Pays-Bas, pratiquement, disparu aux Pays-Bas. Il a disparu en Italie, parce que c'est autre chose, le Parti démocrate de Renzi, qui ressemble plus, finalement, à ce que veut faire Macron. Il est très menacé en Belgique. Il était déjà très faible en Flandre et en Wallonie. Il est maintenant très menacé. En particulier, vous parliez des scandales aussi, des scandales incontestablement. Là, il y a quelque chose de très grave qui se passe. Bon, il vient de quitter le gouvernement en Finlande, il a quitté le gouvernement au Danemark. C'est-à-dire que peu à peu, si vous... aujourd'hui, quel est le pays dans les mois qui viennent qui va être dirigé par un socialiste en Europe ? Bon, il y a encore peut-être juste un mot, peut-être la Suède pour quelque temps parce que il tient sa majorité d'une aide des partis de droite. Et puis il y a le Portugal qui fait partie d'exception, loué par Benoît Hamon, parce que là, c'est encore la gauche plurielle qui exerce le pouvoir.
Marc-Olivier Padis.
Vous avez rappelé tout à l'heure votre modèle d'explication de la faiblesse du Parti Socialiste, ou d'ailleurs sa force, c'est qu'à sa naissance, c'est un parti qui est fondé sur une contradiction entre un projet économique anticapitaliste et la perspective de la conquête du pouvoir. Vous avez dit depuis François Mitterrand, mais quand on lit vos livres, on voit même que c'est une histoire antérieure qui appartient à la SFIO, etc. Et quand on suit votre perspective, dans le fond, on se dit l'aboutissement logique, c'est peut-être l'explosion à laquelle on a assisté, mais alors ça invite à reformuler une autre question, c'est-à-dire non pas pourquoi ça a fini par exploser, parce que vous dites le verre était dans le fruit depuis le début, mais pourquoi ça a tenu. Dans le fond, comment est-ce que vous expliquez, dans ce cas-là, la longévité du Parti socialiste ?
Gérard Grimbert.
Ah, c'est une question fort intéressante, à mon avis. Fort intéressante. Bon, je crois que là, c'est ce que il faut rappeler, au fond, ce que disait Lionel Zinsou à l'instant. C'est-à-dire que je crois que cette alternance gauche-droite qui a tenu parce que c'était les deux grands partis, et il faut jamais oublier que on a un mode de scrutin aujourd'hui. Qui est, enfin, on peut le regretter, on peut le critiquer. Moi, je critique plutôt, mais je vois bien la complexité de la question institutionnelle qu'il y a derrière. Mais n'empêche qu'on a un mode de scrutin. Vous voyez, on peut passer de 30 à 300, de 300 à 30, etc. Et là, les deux partis s'étaient installés de façon à ce qu'il n'y avait plus de place pour les autres. Quoi. C'est clair. Avec la mort lente du Parti communiste et avant que le Front National arrive. Donc, il y avait effectivement une espèce de ce que j'avais appelé à l'époque le bipartisme imparfait qui s'est mis en place à partir de 74, en fait, en tout cas 81. Jusqu'à une date relativement récente. Donc voilà, ça a tenu pour ça. Ça a tenu d'abord parce que non seulement le mode de scrutin, mais les alliances, l'alliance avec le Parti communiste de Mitterrand, etc., a fait que le centre n'a pas pu exister. Cela, on assiste à la renaissance d'un centre, quelque part. Un centre très particulier, on pourra en discuter, mais enfin, d'un centre. Là, il n'y avait pas de place pour le centre, pour toutes ces raisons-là. Et à partir du moment où les gouvernements n'ont pas réussi à obtenir des résultats, il y a eu cette alternance permanente. On chassait l'un plutôt qu'on choisissait l'autre. Et moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 78, quasiment, je crois qu'à une seule exception, un gouvernement a gagné les élections d'après. C'est dire quand même ce qui s'est passé en France depuis 1978. Donc, voilà. Donc, oui, ça a tenu, effectivement. Ça a tenu aussi pour une autre raison. Et celle-là, elle est plus liée au Parti Socialiste. Elle m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est parce qu'elle a disparu là que tout ça s'est effondré. C'est que ce qui s'est passé... Alors, il faut dire aussi, il y avait la poigne de Mitterrand et même de Jospin, que n'avait pas Hollande. Ça joue. Mais ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. C'est que ce parti est resté toujours divisé, vous le rappeliez. C'est absolument vrai. Il n'y a pas de fondamentale nouveauté là-dedans. Ce qui est nouveau, c'est que jusqu'alors, ce qui se passait, c'est le Parti Socialiste, après 24 ans d'opposition, était tellement content d'arriver au pouvoir qu'il y avait une espèce de loi non écrite à l'intérieur du Parti Socialiste qui était de dire, quand on est au pouvoir, ben, on s'arrange avec l'économie libérale. Mais quand on est dans l'opposition, on dit « Ah, on a trahi, et ce coup-ci, c'est bien la dernière fois qu'on trahit, et on reprend un programme qui est vraiment un programme antilibéral. » Mais ça se passait comme ça, et ça permettait de revenir au pouvoir, Et quand les socialistes au pouvoir n'étaient pas contents de ce qui se passait, ben, c'était quand même assez soft. Ce qui s'est passé là, c'est tout à fait nouveau, c'est à mon avis ce qui a créé l'explosion finale, c'est que le Parti Socialiste, vous le rappeliez tout à l'heure en présentant mes idées sur ce point, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'une partie du Parti Socialiste a décidé de partir en guerre contre son propre gouvernement. Pourquoi elle a décidé de partir en guerre contre son propre gouvernement ? Parce que, il faut bien le reconnaître, qu'est-ce qui se passait dans les gouvernements socialistes précédents quand on faisait du libéralisme ? On ne le disait pas. On avait la parenthèse, on avait le machin, on avait des tas de circonvolutions pour expliquer que, en fait, rien n'était changé. Or, ce qu'a fait Hollande, à tort ou à raison, à mon avis, il a eu raison sur le fond, mais il aurait fallu peut-être l'expliquer un peu plus, c'est de dire, eh ben maintenant, on change tout, on est pour l'économie de l'offre. Oh, étranglement, les socialistes, ben, alors là, vraiment, vous nous obligez à dire qu'on est des libéraux. Ben là, on n'est pas d'accord. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, tout a commencé à se déglinguer, jusqu'à ce que tout s'effondre. Et tout s'effondre parce que, comme le disait sur ce point-là justement Manuel Valls, les deux gauches n'étaient plus réconciliables. Elles n'étaient plus réconciliables. Parce qu'elles étaient réconciliables dans l'idée qu'on acceptait de gouverner. Et moi, ce qui me frappe dans ce qui vient de se passer sur le Parti Socialiste, c'est pour ça que je ne crois pas beaucoup à une refondation. Je ne la vois pas, en tout cas. Je ne la vois pas. Ce n'est pas seulement qu'il est très bas, encore que quand vous arrivez à 6-7% pour remonter, c'est quand même difficile, il faut bien le reconnaître. Mais c'est surtout que je n'ai pas l'impression qu'il met l'idée mitterrandienne d'être d'abord un parti de gouvernement en première place. Je crois que ce n'est pas ça. Quand M. Hamon dit, moi, il faut qu'on fasse une gauche radicale comme Podemos, bon, Alors je sais bien que Syriza est arrivé au pouvoir en Grèce dans des conditions très particulières. Je sais bien qu'on va nous dire maintenant que M. Corbyn va peut-être gagner les élections législatives en Grande-Bretagne. N'empêche que c'est quand même pas évident, si vous voulez vraiment faire un parti de gouvernement de ce parti, de vous situer comme ça par rapport à l'ensemble du spectre politique.
Michaela Wigan.
Oui, qu'est-ce qui pour vous pourrait être des conditions d'une recomposition? Vous venez de dire vous y croyez pas trop, mais c'est vrai que on a l'impression, on oublie trop vite que le Parti socialiste c'était pas seulement un parti de gouvernement, mais c'était aussi un ancrage un peu partout et de longue durée, souvent lié, on le voit à travers les scandales là récemment, mais très lié à tout un tissu associatif, des mutuelles, des associations et donc, c'est toute une structure, une organisation sociale du pays aussi qui, en quelque sorte, est remise en question. Et je dis ça parce que c'est vrai que, à la différence de l'Allemagne, le lien avec les syndicats s'est dessous beaucoup plus tôt que chez nous. L'effet structurant du SPD passe souvent à travers des organisations syndicales. C'est moins le cas, je pense, en France. Et donc, ça m'intéresserait. Qu'est-ce qui va devenir tout ce qui est dans le reste du pays, à part le gouvernement?
Oui, c'est bon, il se passera des choses. Je suis incapable de vous dire quoi. Il se passera évidemment des choses. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il y a eu, en tout cas, les Français ont rejeté le Parti socialiste. Moi, ça me frappe à quel point ils ont rejeté ce parti. Ils n'en voulaient plus. Pour des raisons bonnes ou mauvaises qu'on peut discuter, il n'en voulait plus. Il n'en voulait plus, à mon avis, surtout parce que ce parti est resté toujours au milieu de la route. Il n'a pas choisi à des moments importants de l'histoire où il fallait choisir. Mais ce que je crois qui s'est passé, c'est que, et ça c'est ce qui, à mon avis, c'est pas seulement le cas de la France, mais disons, restons un instant sur le cas de la France. Moi je pense, si vous voulez, que si on regarde l'histoire de la social-démocratie européenne, disons depuis le blairisme, depuis la fin des années 90, où il y avait vraiment un mouvement en Europe, que la France d'ailleurs, que le Parti français a essayé de, avec une certaine d'ailleurs réussite, a essayé de freiner, mais qui était vraiment la social-libéralisation du socialisme européen. C'était pas loin. Et d'ailleurs, c'était le but de Tony Blair, très clairement. Il l'avait dit, de faire du socialisme. C'était, il appelait ça la démocratie. C'était comme les démocrates américains. Bon, je reviens pas sur toute cette affaire. Et donc, par conséquent, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas loin de ça. Rappelons-nous le gouvernement Bérégovoy. Rappelons-nous ce qu'était l'ouverture libérale de l'économie française, etc. Et là, vraiment, on avait l'impression qu'il se passait quelque chose. Et puis moi, alors ça, c'est mon interprétation. Il y a eu, alors, je passe sur Blair lui-même, l'Irak et tout, qui a porté un coup à tout ça, en tout cas au moins en Angleterre, mais ce qui s'est passé, à mon avis, c'est la crise financière de 2008. Et ses conséquences. Pas seulement ses conséquences économiques, mais même idéologiques, j'ai envie de dire. La conséquence de 2008, c'est que déjà, et moi je l'ai vu au Parti Socialiste, les choses se sont... D'ailleurs, c'est très amusant, parce qu'il y a une chronologie qui est très intéressante. C'est cette même année-là que le Parti Socialiste avait refait sa déclaration de principe, pour l'économie, disons, pas libérale, l'économie de marché, clairement, voilà, nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous sommes pour l'économie de marché. Et à ce moment-là, la crise éclate. Et moi, j'ai vu des socialistes se dire, mais après tout, ce qu'on nous dit être des vieilles lunes depuis maintenant des années, qu'on est des crétins dépassés, on ne comprend rien, qu'il n'y a plus que l'économie libérale qui peut sauver les pays. Mais après tout, pas forcément. Et peut-être qu'on a raison de maintenir nos idées socialistes, antilibérales, etc. Et ça, je crois. Alors, si ça s'ajoute aux dégâts de cette crise, très important, je parle, alors évidemment, les pays du sud de l'Europe, évidemment, avec, on a vu les conséquences sur la gauche libérale, mais même en France, tout ça a fait que, du coup, il y a eu un renouveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche radicale. Et que, du coup, le Parti socialiste entre cette gauche radicale, et puis au contraire, ceux qui étaient clairement toujours, enfin, qui étaient maintenant sociolibéraux, il n'y a plus d'espace pour le Parti socialiste. Et la raison pour laquelle je pense que ce sera difficile de se recomposer, c'est que je ne vois pas sur quoi il pourrait se recomposer. Parce que la synthèse mitterrandienne dont on parlait à l'instant, elle était très politicienne. Il fallait un certain nombre d'éléments qui puissent permettre de la mettre en œuvre. Aujourd'hui, je ne les vois pas. Alors, quand vous me dites quelle recomposition, je ne la vois pas. Je vous dis simplement qu'il va peut-être y avoir sur 70 élus à peu près de gauche dans cette assemblée, 70, 72, il va y avoir 5 ou 6 groupes parlementaires. Bon, donc là vraiment, je ne vois pas sur quoi elle pourrait se faire. Alors évidemment, ce qui peut se passer, c'est qu'un jour, l'opération Macron ne réussissent pas. Parce qu'après tout, ça peut être fragile aussi, la convention Macron. Parce que tout à l'heure, vous me demandiez sur les partis politiques. C'est quand même une tentative osée en même temps, cette tentative. Alors, pour l'instant, elle réussit parce que les deux grands partis de gouvernement, il les a complètement coupés en deux, liquidés, etc. Mais enfin, oui, on aura besoin de partis. Et comment tout ça va se reconstruire? Rappelons-nous qu'en 1958, c'était la fin des partis. De Gaulle avait liquidé les partis. Puis à son départ en 69, on a refait une république des partis, quand même.
Lionel Zinsou.
Mais au fond, est-ce qu'on est très intéressé au devenir du Parti socialiste en tant qu'association qui habite rue de Solferino, dans un siège qu'il va vendre? Qui va changer de nom, est-ce que ça nous intéresse beaucoup ou est-ce que c'est plutôt la gauche qui nous intéresse? Et est-ce qu'il n'y a pas chez Macron des choses relativement intéressantes? Parce que d'abord, il y a manifestement une majorité d'électeurs de gauche dans l'électorat de Macron, et la majorité des gens qui avaient voté pour François Hollande qui sont venus là. Donc, à partir du moment où ça devient la maison des électeurs socialistes, pas forcément des militants, des dirigeants, mais des électeurs, est-ce que ça n'incarne pas une forme de la gauche? Deuxièmement, le lien qu'évoquait, qui est très important, mais qui est là, avec les syndicats, qui a toujours été quand même un des échecs de la social-démocratie à la française par rapport à la social-démocratie à l'anglaise ou à l'allemande. Il est en train de se faire apparemment assez convenablement dans le dialogue social où la CFDT, comme on l'a vu dans la préparation de la loi Macron, comme on l'avait vu dans l'accueil de la doctrine Macron de la commission Attali en son temps, la CFDT est en fait assez proche. A coproduit récemment ce qui était les actes du ministre Macron. On voit ce changement tout à fait extraordinaire où Force ouvrière est dans le dialogue social dès les premières semaines, dès les premiers jours, avec une mutation absolument étonnante et quelque chose qui ressemble à, là aussi, de la coproduction des changements sociaux, si radicaux qu'ils soient. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer sous le toit et l'appellation d'En Marche quelque chose qui, comme le disait le président de la République quand il était candidat, correspond à des valeurs de gauche? Je suis un homme de gauche avec des valeurs de gauche, ça il l'a toujours affirmé dans chaque meeting, avec par ailleurs un lien dans le dialogue social avec les syndicats qui ressemble beaucoup à la social-démocratie, puis surtout les électeurs sociaux-démocrates français. Donc, est-ce que la gauche ne va pas se retrouver dans le macronisme, avec éventuellement l'apport d'une fraction du Parti socialiste, puisque vous annoncez un Parti socialiste divisé en 3 ou en 6. Mais enfin, manifestement, M. Manuel Valls et un certain nombre de compagnons de route se définissent comme dans la majorité présidentielle. Donc, si on cherche la gauche avec une lanterne, on la trouve peut-être majoritairement chez En Marche, avec un petit appoint des Républicains et du Centre, compagnons de route d'une nouvelle démocratie, social-démocratie française, post-Bad Godesberg à la française.
Gérard Grimbert.
Je partage assez votre analyse, pour dire la vérité. Donc, je vais plutôt la conforter que la critiquer. Ce que je pense qui s'est passé, c'est que comme le Parti socialiste n'a pas été capable de gérer les deux gauches irréconciliables, ces deux gauches sont devenues justement irréconciliables en liquidant le Parti socialiste. C'est vrai, exactement ce que disait Mélenchon. Parce qu'au fond, on a bien deux gauches aujourd'hui. Si on suit votre schéma, mais que je suivrai plutôt volontiers, on a bien deux gauches. On a la gauche radicale, et elle existe. Et elle existe dans les urnes, elle existe dans les têtes, elle existe dans les mouvements. Et on a une gauche social-libérale. Je veux bien dire que le social-libéralisme est une gauche. Je serais peut-être pas d'accord avec tous mes amis du Parti socialiste, mais je crois qu'on peut dire ça. À ce moment-là, effectivement, vous avez deux gauches qui sont effectivement irréconciliables. Et avec une qui a vocation à gouverner comme l'avait le parti d'Épinay, au fond. Et puis l'autre qui, pour l'instant, n'a pas, à mon avis, vocation à gouverner. Alors, pourquoi j'étais très intéressé par l'étude? Il y a une étude sociologique sur l'électorat Macron très très intéressante. Ce qui m'avait frappé dès mon plus jeune âge dans mes enquêtes sociologiques, ça me semblait curieux, mais bien français, mais curieux, c'est à quel point, en réalité, ce qui me frappait en France, c'était que ceux qui étaient sociaux culturellement n'étaient pas, qui étaient libéraux culturellement n'étaient pas libéraux économiquement. C'était même véritablement la barrière depuis que les classes moyennes nouvelles avaient adhéré au Parti Socialiste dans les années 80-90. Ce qui me frappait, c'est qu'on avait les libéraux économiques contre les libéraux culturels. Ce qui m'a frappé dans cette enquête sur l'électorat Macron, c'est que pour la première fois en France, on a un électorat relativement large, c'est pas 3, 4, 8%, c'est large, de gens qui sont à la fois libéraux culturels et libéraux économiques. En ce sens, on peut dire que c'est bien un électorat social-libéral, si vous voulez. Ça, c'est très très intéressant dans ce qui s'est passé. Et vous parliez de la CFDT, c'est très intéressant. Hier, une enquête est parue montrant très clairement que les gens proches de la CFDT ont voté Macron et les macronistes aux élections législatives. Et que les proches de la CGT ont voté pour les candidats d'extrême gauche, en particulier pour Mélenchon ou ses hommes. Donc là, on a vraiment, on voit bien que cette division politique est aussi une division syndicale. Ça, c'est absolument clair. Et ça nous rappelle d'autres temps, au fond, de la gauche française. Donc, moi, ça me dérange pas du tout de dire que c'est la gauche, que c'est une nouvelle gauche. Mais à ce moment-là, le point de référence le plus intéressant, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est le parti italien? Ben, ce sont de la gauche modérée avec certains démocrates chrétiens, comme ça a failli être le cas chez nous, comme ça l'est encore un peu, une partie de la droite modérée, libérale, plutôt sociale, et qui regardait, il n'y a pas si longtemps, la gauche du parti, qui venait du Parti communiste, la gauche italienne, du PD italien, finalement a fait sécession par rapport au Parti démocrate de Renzi. Donc ça ressemble un peu, ça peut aller dans le sens de ce que vous dites, d'une recomposition. Pourquoi? Mais ça, c'est ce que je défends comme idée depuis très 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 longtemps. Je pense qu'un grand parti de gouvernement peut pas, pendant des dizaines d'années, refuser d'avoir une position claire sur le libéralisme économique. C'est tout.
Marc-Olivier Padis.
Alors je poursuis là-dessus, c'est-à-dire que si aujourd'hui ce qu'on voit, c'est dans le fond cette présence d'un électorat social-libéral qui était dans le fond déjà présent, mais on ne le voyait pas. Donc quelle est l'opération de révélation au sens photographique qui fait que on a vu soudainement apparaître cet électorat qui était présent mais pas manifeste?
Ben, d'abord, on ne le dit pas assez, mais c'est fondamental en politique, c'est l'offre politique. Ça, je crois que c'est fondamental. Quand il y a une offre, on la saisit. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui avaient, en 58, envie, avant qu'elle arrive, de saisir une offre de type gaullien. Et elle arrive, elle est là, on en profite. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Ça a été l'offre politique qui permettait exactement ce que vous dites, qui permettait à un électorat qui n'osait pas ou qui ne pouvait pas s'exprimer avant dans le cadre du système partisan qui existait alors, le faire. Et moi, ça me frappe beaucoup. Mais c'était aussi dû au fait, je vous disais, que à partir du moment où le Parti Socialiste réussissait à faire plus ou moins de l'économie libérale quand il était au gouvernement, sans l'avouer, ça permettait au fond de tenir ça, mais du coup, ça ne permettait pas à ceux qui étaient vraiment sociaux-libéraux de s'affirmer. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité. Pourquoi? Parce que l'establishment, j'ai envie de dire socialiste, empêchait justement cette clarification. Parce qu'il savait que le jour où elle se ferait, et d'ailleurs qu'il avait raison, parce que quelque part, on peut critiquer Mitterrand, mais Mitterrand, ben, il était dans la France de son époque. C'était la France d'après 68. On peut critiquer Mitterrand d'avoir justement bâti tout le nouveau socialisme sur cette ambiguïté fondamentale, créatrice et finalement assez longtemps opératoire. On peut lui critiquer, mais en même temps, il n'y avait pas d'autre solution à l'époque, du point de vue de la gauche, pour faire revenir la gauche au pouvoir. Il n'y en avait pas d'autre. C'était l'alliance avec le Parti communiste. Alors, on peut être pour ou contre, ça, c'est un autre problème, mais on avait cette... Là, aujourd'hui, il y a une offre qui apparaît, une offre, c'est celle de Mélenchon. Et ça a été une offre assez forte, assez réussie, quand même, parce que, bon, après, il a été... tellement inconséquent dans la manière dont il a géré son succès de la présidentielle qu'il s'est effondré, finalement, parce qu'il voulait tellement d'abord tuer les autres gauches que de les rassembler, qu'évidemment, on a eu les résultats qu'il devait avoir. Mais il a fait quand même 20% et dans des coins, des très gros, gros résultats. Donc, on a bien eu deux offres nouvelles. Et à partir du moment où il y avait des offres nouvelles, l'ambiguïté créatrice du Parti Socialiste n'a pas pu résister à ces clartés du discours.
Lionel Zinsou.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un événement important fin 2012, donc très très vite, dans le quinquennat, qui objectivement a dû rendre difficile la condition de député socialiste, où pour la première fois on a fait deux politiques contradictoires, dans le débat de la même loi de finances. Oublions un instant l'affaire Cahuzac cachant la forêt. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le budget, le premier budget du gouvernement de François Hollande, est un budget de taxation, un budget qui provoque des controverses terribles, les pigeons, le patronat des start-up, etc. Parce que tout d'un coup, on fait basculer tout ce qui est rémunération du capital du côté de l'impôt sur le revenu. Absolument. Et ça correspond à une taxation extraordinaire. Il y a les 75% qui sont un mythe extraordinaire, etc. Donc c'est une expérience très radicale en matière de politique économique. Et la note sur le CICE, donc sur ce qui va être l'abaissement des charges, la TVA sociale, elle vient des mêmes, puisqu'elle vient de Louis Gallois, du directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg, dès les premiers jours, et elle aboutit, avant que la loi de finances soit votée, à l'énonciation, alors ça prendra effet un an plus tard, mais l'énonciation des principes de l'abaissement des charges, d'une fiscalité complètement différente, de la mise en avant du coût du travail comme étant un problème de compétitivité, et donc il faut absolument le résoudre, et donc il faut un transfert massif sans contrepartie vers les entreprises. Et donc, en décembre 2012, on vote définitivement une loi radicale d'hypertaxation, et on annonce une loi d'allègement fiscal massif et d'une logique absolument inverse. Alors après, que les députés explosent, que les frondeurs se mettent à faire des motions de censure, est-ce que c'est pas quelque chose qui a quand même un événement fondateur ce dernier trimestre 2012,
Gérard Grimbert?
Oui, ben, une fois encore, je suis d'accord avec vous. Je pense d'ailleurs que ça résume ce que vous venez de dire, tout ce que j'ai dit pendant cette émission. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les contradictions sont plus gérables, quoi. Et effectivement, vous avez raison, il y a deux départs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu tant de discussions sur comment on apprécie ce qu'était la campagne Hollande et puis son élection, etc. Je crois que c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a eu deux départs en même temps et contradictoires du septennat de Hollande. Un qui était plus d'ailleurs contenu dans sa primaire, dans sa campagne de primaire, et l'autre plutôt dans sa campagne présidentielle, avec les 75%, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, dès ce moment-là, on voyait bien que le socialisme français était arrivé à un moment où, s'il ne faisait pas de choix, il allait dans le mur. Et c'est bien ce qui s'est d'ailleurs passé. Donc moi, je partage tout à fait cette idée. Il y avait, pourquoi? Parce qu'en fait, les socialistes, en tout cas ceux qui ont quelques notions en économie, avaient compris que les vieilles recettes ne pourraient pas régler la question du chômage. On n'était pas sûr que les nouvelles le pourraient, mais on savait au moins que les anciennes ne le pourraient pas. Et donc, par conséquent, ils savaient déjà, mais ce n'était pas tout à fait nouveau. Mais enfin, bon, ils savaient que là, il fallait bouger sur la politique de l'offre. Ce n'était pas possible. Bon. Mais comme c'est une chose qu'on ne pouvait pas dire, il y a l'ambiguïté. Je crois qu'effectivement, vous avez parfaitement raison. Je crois que l'échec de ce quinquennat, il est inscrit dans son démarrage. Et pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer là, il est inscrit à ce moment-là.
Marc-Olivier Padis.
Oui, je voudrais essayer de vous attirer sur un terrain un tout petit peu différent, si on abandonne un instant le destin du Parti Socialiste. Il y a la question plus large, comme vous avez dit, émergence d'un grand centre. Est-ce que ça veut dire que le clivage gauche-droite lui-même disparaît, ou est-ce que ça veut dire qu'il va revenir? Et je voudrais articuler ma question sur une autre remarque que vous avez faite, sur le fait que dans toute l'Europe, la social-démocratie est en difficulté, mais entendons-nous la social-démocratie comme projet politique, parce qu'il y a aussi des institutions social-démocrates, au sens les institutions de l'État-providence, l'organisation de la négociation sociale entre patronat et syndicats, et celles-ci, ces institutions, se portent plutôt bien, au sens elles peuvent être en déficit, etc., mais personne ne les attaque idéologiquement, personne aujourd'hui ne veut remettre en cause les retraites, la sécurité sociale. Débat qu'on voit aux États-Unis, par exemple, mais pas du tout en Europe.
François Fillon avait essayé un peu.
C'est vrai que ça ne lui a pas porté énormément de chance. Mais quand on pense, par exemple, en Allemagne, vous avez dit le SPD, de fait, les socialistes sont en mauvais état. Mais Angela Merkel conduit une politique extrêmement centriste. Après tout, enfin, on ne va pas passer en revue l'ensemble des pays européens. Mais en gros, les pays européens convergent vers un modèle dans lequel il y a à la fois économie de marché, forte régulation par l'État et des institutions sociales de solidarité, pour le dire grossièrement. Donc, est-ce que ça veut dire que le destin, c'est de gouverner au centre ou sur le modèle grande coalition à l'allemande, là où des institutions le permettent, où les traditions de dialogue font que c'est possible, ou est-ce que dans l'histoire longue de la politique française, le clivage gauche-droite garde un sens et va, au bout d'un temps, on ne sait pas sur quel sujet, mais se cristalliser à nouveau.
Gérard Grimbert.
Oui. Moi, mon hypothèse, c'est que le clivage gauche-droite, en tout cas dans la période qui s'ouvre, je ne sais pas dans 50 ans, mais en tout cas dans les années qui viennent, est quand même très affaibli. Il est très affaibli parce qu'il me semble que les forces centrifuges qui s'exercent sur la droite et sur la gauche sont plus fortes que les tendances centripètes qui les fait se former. Et en même temps, je pense que ce qui rapproche les centres-gauche et centres-droits est plus fort que ce qui oppose les centres à leurs extrêmes. Et pour la raison suivante, la première, c'est fondamentalement la question de l'immigration. Or, cette question va rester une question absolument majeure, sociale et politique, dans les années qui viennent. Et du coup, la question du souverainisme. Et la question du souverainisme est quand même une question fondamentale. N'oublions pas qu'au premier, et je mets Mélenchon dans le souverainisme. C'est un souverainisme qui n'est peut-être pas exactement le même, je suis bien d'accord, que celui de Marine Le Pen, mais c'est aussi un souverainiste. On rappelait l'affaire du drapeau européen, dont les deux leaders ne souhaitent pas que ce drapeau soit dans l'enceinte du Parlement. Donc, rappelons-nous qu'au premier tour de l'élection présidentielle, l'ensemble des candidats souverainistes représentaient à peu près 50%. Donc, ce clivage-là, pour moi, il est très, très important. Mais il se double d'un autre. Mais disons, il n'y a pas que cette dimension de l'immigration. Il y a donc la dimension européenne qui lui est liée, évidemment. Donc, il y a la dimension, à mon avis, de xénophobie ou humanisme. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que les partis et les individus s'opposent sur des valeurs. Et je pense que ce qui fait tenir les centres, ou l'union des centres, selon le mode de scrutin, selon les pays et tout, c'est bien une certaine conception de l'humanisme. Une question de l'humanisme. Et on l'a bien vu en Allemagne avec Angela Merkel, la conception de l'humanisme. Bon, on peut voir, mais enfin, on est des autres, on est des êtres humains. Bon, et ça, là aussi, dans nos pays aujourd'hui, et je ne parle pas de l'Europe de l'Est, restons pour l'instant en Europe de l'Ouest, ça aussi, et qui se combine un peu à la première dimension dont je parlais, c'est quelque chose et qui peut effectivement créer des clivages politiques plus forts que le clivage gauche-droite. Et puis, je le disais, il y a la question du libéralisme économique. Parce qu'aujourd'hui, le libéralisme économique, on a un rapprochement des centres, mais on a aussi un rapprochement des extrêmes entre eux. Parce qu'entre nous, Mme Le Pen, elle a piqué le programme de Mélenchon en économie. Il faut bien voir les choses, ou à peu près, donc comme elles sont. Donc on a bien aussi ça qui empêche, qui est orthogonal au clivage gauche-droite, si vous voulez, cette question du libéralisme économique. Ça explique d'ailleurs ce qui s'est passé avec Macron. Donc on a... Et puis j'ajouterai une dernière chose. Tout ça est lié un peu. Ça tourne autour du libéralisme politique, finalement. C'est la question du régime représentatif. Quand M. Mélenchon nous dit « ça se passera aussi dans la rue », c'est pas tout à fait pareil que les socialistes attachés depuis Jaurès à la République et à la démocratie représentative. Et à droite, c'est exactement la même chose. Donc, c'est ce qui me fait dire que le clivage gauche-droite est très, très, très affaibli. Et en tout cas, on peut dire aujourd'hui, en France, j'ai pas le temps aujourd'hui de développer sur l'ensemble de l'Europe, en France, on voit bien que pour la première fois, il n'est plus le système qui permet de faire fonctionner il ne permet plus de faire fonctionner le système politique. Le système politique ne fonctionne plus. Et de ce point de vue-là, le second tour de l'élection présidentielle annonçait parfaitement ça.
Le clivage gauche-droite dont vous venez de parler, mais n'existe plus. Mais le parti lui-même, est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est quelque chose, il faut se souvenir, s'il y a autour d'une plateforme idéologique plus ou moins sincère, mais il y a une organisation dont les règles sont connues et qui, aujourd'hui, se retrouve dans quelle formation encore en état de postuler au pouvoir?
Ben non, non. Là, vous posez une question. Là, il faut qu'on y réfléchisse à celle-là. On n'y a pas encore tout à fait assez réfléchi. Il y a un type de parti est peut-être mort. Pas tous. Le problème, c'est qu'on a besoin de partis pour faire... Enfin, on a besoin d'organisations pour faire fonctionner la démocratie représentative. Je ne sais pas si ce sera les partis tels qu'on les a vus, mais ce qui me frappe avec cette démocratie médiatique, quand même. Médiatique. Et pourquoi le gaullisme a fait une telle résurgence, là, dans cette période? Pourquoi le gaullisme, qu'on croyait d'un autre âge, s'est réveillé aussi clairement là? Eh ben, c'est parce que la question du leadership est fondamentale en politique. Et elle le devient. Et elle est de plus en plus avec la médiatisation. On cherche des leaders. C'est ça d'ailleurs qui a fait l'échec, à mon avis, du quinquennat Hollande. Donc, il y aura un. On voit bien que la question du rapport entre leader et parti est à régler dans les temps qui viennent.
On cherche des leaders et la médiatisation les tue.
Quelque part. Quelque part.
Lionel Zinsou.
C'est normal, non, que les partis comme les médias soient travaillés par la digitalisation. Parce qu'au fond, ceux qui voulaient se moquer d'En Marche disaient que 250 000 personnes qui ont juste cliqué, pas payé de cotisation, ne se sont pas affrontées aux réunions de section, etc., n'ont pas les codes. Ça peut pas être un parti, à part que dans les dernières semaines, ils organisaient 1000 réunions par semaine, alors qu'on voyait les Républicains et les socialistes du PS tellement divisés qu'ils n'arrivaient pas à distribuer des tracts sur les marchés et à organiser des réunions. Donc, est-ce que l'ubérisation appliquée aux partis politiques ne donne pas quelque chose comme En Marche, avec une redoutable efficacité, même de terrain, de porte à porte? Enfin, on avait vu l'annonce de ça dans les campagnes d'Obama. Et donc c'est un phénomène, cette transformation et cette digitalisation des partis qui est peut-être, au fond, déjà bien avancée. Non, moi j'avais une question sur, donc, l'autre gauche, celle qui n'est pas réconciliable. Donc, admettons que la social-démocratie soit en location-gérance chez Emmanuel Macron. Et si ça ne réussit pas, il y a une alternative à gauche, c'est les non-réconciliables, qui vont manifestement être rejoints par des morceaux de l'ancien parti social. Enfin, ancien, il n'est pas encore ancien, mais enfin, il va devenir ancien assez vite. Et alors, est-ce que vous pensez que, au fond, il va y avoir une alternative possible en cas d'échec, qui ne sera pas simplement l'alternance avec les Républicains, qui aujourd'hui sont la vraie opposition, parce qu'ils ont les régions, les départements, les villes, et le premier groupe, l'Assemblée nationale, dans l'opposition, mais est-ce qu'on ne va pas avoir une alternance demain entre social-démocratie avec son alliance au centre, et puis une espèce d'union de la gauche, de nouvelles formules, insoumise, ubérisée, d'un nouveau type, mais qui constituerait bien une alternance à gauche, une alternance entre les deux gauches en cas d'échec de Macron. Parce que pour le coup, les problématiques de la radicalité, de la sortie de l'euro, de faire une autre politique économique, de rétablir des frontières, d'être protectionniste, etc., c'est au fond quand même un corps de doctrine qui peut entraîner des crises catastrophiques, mais enfin, qui peut, au fond, être une alternance à gauche de la gauche. Est-ce qu'on ne va pas avoir cette reviviscence de la gauche sous forme d'une gauche chez Macron, et puis d'une gauche qui assurerait la relève si ça échouait dans le social-libéralisme?
Cher Grimbert.
Auquel cas, on aurait deux gauches plutôt qu'une, et au fond, la gauche n'irait pas,
n'irait pas si mal. On n'aurait plus rien à droite. En tout cas, ce qui rend les... Enfin, qu'il puisse y avoir, parce que c'est un peu mon idée du deuxième clivage, qu'il puisse y avoir, tel que vous le présentez, ce type de clivage, me paraît tout à fait possible. Politiquement, il est difficile à transformer dans les faits en majorité politique, parce que précisément, tant que... Ou bien le clivage gauche-droite quand même continue à exister. Si le clivage gauche-droite continue à exister, le problème c'est que l'électorat possible, pour ce que vous dites, est aussi très largement aujourd'hui à l'extrême droite. Et donc par conséquent, il faudrait, tant que vous avez le clivage gauche-droite, l'extrême gauche sera pas suffisamment forte, à mon avis, pour gagner les élections. C'est pour ça que moi, j'avais une hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse, hein, attention, ce n'est qu'une hypothèse, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir une autre bipolarisation, mais qui serait un peu celle que vous dites, mais à condition que tous les populistes se ressemblent. Or, il y a quelque chose qui empêche les populistes de gauche et de droite. Je dis populistes de gauche et de droite parce que il faut pas oublier que Mélenchon lui-même refuse vraiment de se classer à gauche. Il dit nous sommes ailleurs, nous sommes un mouvement d'une autre façon. Bon, si on met tous les populistes ensemble, oui, peut-être, mais il y a une chose encore qui aujourd'hui, c'est ça qu'il faut suivre absolument, empêche le rapprochement de l'extrême gauche, l'extrême droite. Vieille formule, ou populiste de gauche, populiste de droite, ou mélenchoniste et le péniste, c'est quand même la question de l'immigration. Parce que pour l'instant, cette extrême gauche, elle est humaniste sur le plan de la question de l'immigration. Elle n'est pas du tout sur les positions de Marine Le Pen. Elle n'est pas xénophobe. Pas du tout. Alors, je ne sais pas ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Et pour l'instant, il n'y a pas de rapprochement possible parce que là, on l'a bien vu, il y a cette question d'un certain type d'humanisme face à l'immigration qui n'est pas du tout vécu de la même façon. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça permet au centre d'être assez tranquille, je dirais. Parce que comme le système gauche-droite ne marche plus et que mon autre clivage ne peut pas encore totalement s'appliquer comme clivage, vous voyez, bipolarisant, ça permet... à mon avis, au centre, d'avoir, enfin, ce centre-là, d'avoir peut-être une existence plus longue qu'on ne le croit.
On n'a pas déjà vu quand même quelques glissements d'électeurs partagés qui votent au premier tour pour le populisme de droite et puis ensuite le populisme de gauche, les Front National, Front National à l'envers. Ça existe, il y a un début de ça.
Ah, il y a un début de ça.
Si vous combinez ça avec la dédiabolisation,
oui, absolument.
Vous remplacez l'antisémitisme et l'islamophobie par la laïcité. Et puis vous allez un peu plus loin, vous allez vous inventer quelque chose à la place du racisme et de la xénophobie, un nouveau concept.
Affreuse et intéressante hypothèse.
Une dernière question anecdotique, ou peut-être pas d'ailleurs uniquement anecdotique, mais on voit la personnalisation beaucoup autour d'Emmanuel Macron, autour de Marine Le Pen, autour de Jean-Luc Mélenchon. On ne la voit pas dans la droite traditionnelle et on ne la voit pas dans la gauche non libérale. Ou alors, est-ce que je me trompe? Ou est-ce qu'il y a une émergence de leader, d'une figure qui pourrait être une figure de proue, disons, de ces deux mouvements?
Non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que là, vraiment, toute cette classe politique a été décapitée, vraiment décapitée. Il ne reste plus personne, ni à gauche, ni à droite. Personne. Donc, voilà. Alors, évidemment, ça peut se refaire, les leaders. Mais, pour l'instant, je n'en vois pas. L'autre, c'est qu'en plus, alors, moins pour la droite, c'est pas vrai pour la droite, mais pour la gauche, ce qui reste du Parti Socialiste, par ADN... j'ai envie de dire, l'ADN du Parti Socialiste, c'est quand même qu'on se méfie beaucoup de l'homme providentiel et quand même, faut se rappeler quand même ce qu'est l'histoire de ce parti par rapport aux institutions. Donc, il y a de multiples raisons pour qu'il n'y en ait pas. Comme je le disais tout à l'heure, il faut maintenant des leaders, c'est absolument nécessaire. C'est plus les partis qui créent les leaders, mais les leaders qui créent les partis. Ça a été plus qu'on ne le croit, d'ailleurs, la vérité quelquefois dans l'histoire. Mais donc, par conséquent, ce qui me paraît à moi, c'est qu'effectivement, l'une des grandes difficultés que vont avoir les deux anciens partis de gouvernement à subsister dans les temps qui viennent, c'est la question du leadership.
Gérard Grimbert, je vous remercie de nous avoir éclairé sur la situation de la gauche et plus particulièrement du Parti Socialiste. C'était L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex, Mathilde Cadreau et Guillemette Franquet, avec aujourd'hui à la technique Pascal Bénard. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle émission de notre série des thématiques d'été. Thank you.